Alors on va poursuivre notre lecture dans le livre des Hébreux. Et nous en sommes arrivés au chapitre 13. Voilà, on a commencé notre culte avec cette invitation à louer Dieu. Quelque part, qui est une marque des chrétiens, cette invitation à célébrer Dieu, à dire qui il est, à célébrer sa bonté envers nous comme on vient de le faire, notamment avec la Sainte Cène, mais aussi avec le chant et la prière. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les chrétiens aiment généralement, et on aime développer cet art quelque part. Il y a même des écoles de louanges qui existent, où on apprend encore plus à chanter, mais surtout à diriger le chant de l'assemblée pour inviter l'Église à célébrer Dieu. Mais chanter n'est pas suffisant, on le dit souvent. Souvent, ceux qui nous conduisent dans le chant, voilà, nous le rappellent. Il y a même un chant qui nous le dit, hein, le chant terminé. Le rideau retombe, ce n'est pas simplement chanter qui est important, mais c'est notre cœur. Et notre auteur ici va nous conduire justement dans cette célébration, dans cette louange. Quelle est l'adoration, la célébration, la louange que Dieu veut? Il nous a conduit justement, durant toute cette épître, à considérer qui est Jésus-Christ, à considérer la grandeur de son sacrifice, la suffisance de son sacrifice, que nous pouvons être dans le repos de Dieu, dans cette certitude de la réconciliation seulement en Jésus-Christ. Et à cause de cela, de pouvoir persévérer, même s'il y a des moments difficiles dans la vie. Et il va encore aboutir de cela sur une des conclusions logiques de cette cohérence, parce que Dieu nous aime tellement. Parce qu'il a tellement fait en Jésus-Christ pour nous, parce qu'il nous a accordé la perfection, alors maintenant, célébrons-le. Mais célébrons-le, pas comme nous on veut, mais célébrons-le comme lui il veut. Et c'est ce que nous allons voir dans ce passage. Et nous lisons, nous allons nous concentrer sur les versets 1 à 8 du chapitre 13, mais nous allons commencer notre lecture au chapitre 12, verset 28, pour faire le lien. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Parce que nous avons un royaume inébranlable, nous dit l'auteur. C'est-à-dire parce que Jésus-Christ nous a à ce point aimés, parce que Dieu nous a à ce point aimés en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a purifiés entièrement, parce qu'il a lavé notre conscience, parce qu'il nous a rendus parfaits à perpétuité, parce qu'il nous a donné le repos de sa présence, de la réconciliation, par son sacrifice unique, parce que Dieu a fait pour nous ce qui nous était impossible, alors célébrons-le. Célébrons-le comme lui y veut. Célébrons-le par reconnaissance, par gratitude. Célébrons-le dans une réponse, d'un cœur qui répond à tant d'amour reçu. Et quelle est cette reconnaissance dans laquelle Dieu prend plaisir? Est-ce que vous voyez le point commun entre les versets 1 à 6 dans la description de cette louange, dans la description de cette célébration que Dieu veut? Dans les versets 1 à 6, on pourrait résumer cela en deux, trois mots. Quelle est la célébration d'après ces versets 1 à 6 que Dieu veut dans notre chapitre 13 aux Hébreux? Ouais, l'amour fraternel. Et plus que l'amour fraternel, en fait, c'est, parce que c'est que pour le premier point, l'amour fraternel, mais c'est aimer notre prochain, quel qu'il soit. Aimer notre prochain. Un culte qui honore Dieu. Dieu veut être célébré par notre manière d'aimer ou de servir notre prochain. Aimer va obligatoirement dans le sens de servir. On peut servir sans aimer, hein, ça on le sait, n'est-ce pas? Mais si on aime, on sert, ça va ensemble. Et cela est mis en évidence notamment par trois mots dans notre texte qui ont une base commune, ces trois-là. Verset 1, Philadelphia, l'amour fraternel. Verset 2, Philoxénia, l'amour pour l'étranger. Et verset 5, Aphilarguros, pas d'amour pour l'argent. Et vous voyez ce terme qu'on retrouve dans Philippe, celui qui aime les chevaux. Dans la philosophie, celui qui aime la sagesse, c'est l'amour. Voilà ce que Dieu veut, le culte que Dieu veut. Voilà comment Dieu veut être célébré, par l'amour pour notre prochain. C'est-à-dire que notre amour, notre manière de vivre, soit réorienté dans la bonne direction, comme Dieu veut, parce que nous sommes touchés par l'amour de Dieu. Alors, reprenons ces quelques éléments. Alors, pour ceux qui aiment les plans en trois points, je suis désolé, je crois que j'en ai 6 ou 7. Mais j'ai essayé d'être bref. Célébrons Dieu en aimant notre frère ou notre sœur. Verset 1. Pierre et Jacques sont deux chrétiens d'une même église qui s'apprécient bien, qui prennent du temps ensemble, qui ont passé plusieurs années dans la même église. Et un jour, Pierre fait une remarque qui lui semble tout anodine, comme on en fait chacun, à Jacques. Mais sans s'en rendre compte, en fait, il blesse terriblement Jacques. Et à cause de cela, pendant quelques dimanches, on ne voit plus Jacques venir à l'église. Alors, au bout d'un moment, un des responsables va voir Jacques pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Pourquoi on ne te voit plus ?» Et il lui explique la situation, mais rapidement il dit « Mais j'ai pardonné, pas de problème, je suis en paix avec Dieu. J'ai pardonné, mais je ne préfère plus venir. » C'est une situation inventée, bien sûr, qui n'arrive jamais dans nos églises. Est-ce que le pardon a réellement eu lieu? Si on refuse de revenir, si on refuse de rencontrer à nouveau la personne. L'accent ici n'est pas mis sur le fait d'être dans l'amour fraternel. L'accent ici est sur le persévérer. Persévérer, c'est un impératif. Persévérer dans l'amour fraternel. Continuer, ne cessez pas. C'est-à-dire que, comme c'est un impératif, il y aura cet élément de notre volonté qui va dire à nos sentiments, continue. Va voir Pierre, c'est vrai qu'il t'a blessé. C'est vrai qu'il a touché un point, peut-être encore une fois, par une blague, où il ne sait pas ce qu'il a touché, mais il t'a vraiment fait mal. Mais va le voir, va parler avec lui, parce que c'est ça qui est juste aux yeux de Dieu. Et parce que l'auteur nous dit ça, persévérer, l'auteur sait très bien que quand on met des chrétiens ensemble, un jour ou l'autre, ça va faire mal. Un jour ou l'autre, il y aura des blessés. Quand on met des êtres humains qui se réunissent, 100% garantie, il y aura des problèmes. C'est la vie. Ce n'est pas une excuse, d'accord? Ce n'est pas une autorisation, mais c'est une réalité. Et à cause de cela, l'auteur nous dit, persévérer. Donc la question n'est pas « cherchons à éviter ». Bien, il faut chercher à éviter, hein, on ne va pas l'encourager. Mais la question, c'est comment nous allons réagir quand ça va arriver. Soyons clairs que ça va arriver. C'est arrivé, soyons clairs que ça va encore arriver. La grande question que nous pose notre auteur ici, c'est comment toi tu vas réagir ? Comment moi je vais réagir ? Il nous dit persévérer. En fait, pourquoi il nous dit ça ? Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Parce que notre Dieu, et c'est comme ça qu'il veut être célébré par l'amour fraternel. Autrement dit, la réponse à notre difficulté est pas une réponse personnelle, c'est une réponse cultuelle. Qui allons-nous célébrer ? Est-ce que nous allons nous célébrer nous-mêmes ? Célébrer notre orgueil ? Célébrer notre intégrité ? Célébrer notre fait de ne pas être touché, notre estime, notre valeur ? Ou alors ce que nous allons célébrer Dieu en disant « je continue ». Pas « je continue comme si de rien n'était », mais j'ose aller voir la personne, j'ose aller lui parler, dire que c'est difficile. Mais parce que Dieu nous a aimés au point de se donner entièrement jusqu'à la mort sur la croix, nous aussi, aimons-nous en nous donnant entièrement. Alors juste attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer le mal, ni ne pas reprendre, d'accord ? Je vous rappelle ce passage de Matthieu 18 que Jésus a dit à ses disciples, « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. » Il n'y a pas écrit « va le dire aux anciens ou aux pasteurs pour qu'il ait eu cette épée sur les doigts. » Non, non, va, toi, parce que tu l'aimes, parce que c'est ton frère. Va le reprendre, seul à seul. Autrement dit, l'amour n'est pas « ah, oh, on s'aime, on fait comme si de rien n'était. » Non, 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 l'amour ose dire quand ça ne va pas. L'amour ose reprendre, n'est-ce pas ? Mais l'amour doit persévérer, parce que c'est comme ça que Dieu veut être célébré. Réponse cultuelle. Je te pose cette question. Face à qui, aujourd'hui, tu dois persévérer ? Par rapport à qui, dans l'Église, aujourd'hui, dois-tu apprendre à persévérer ? Allez peut-être voir un frère ou une sœur. Ou continuer à aller de l'avant. Et l'enjeu est énorme. L'enjeu est le culte universel. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et à cause de cela, notre persévérance est essentielle. Elle est cultuelle. Elle est extrêmement importante. Voilà la louange que Dieu veut, comment il veut être célébré. Aimons notre frère. Célébrons Dieu en aimant l'étranger. Dans ma traduction, par exemple, c'est rendu par « n'oubliez pas l'hospitalité ». Mais littéralement, c'est « aimer l'étranger ». Celui qui est différent de toi. Celui qui a des origines géographiques différentes. Celui qui a une langue différente, une culture différente, une religion différente. Autre chose de différente. Aime l'étranger. Et avec le contexte qu'on a dans toute la lettre, c'est possible qu'il s'agit de celui qui voyage à cause de la persécution, de la guerre ou de la famine. C'est-à-dire celui qui n'a pas de bien personnel, qui ne peut pas prendre, qui ne peut pas pourvoir à ses besoins. Je donne un exemple. Norbert Vallée, c'est un de nos pasteurs de la Frey, qui actuellement est mis en procès en Suisse. Vous savez pourquoi ? Quel est son grand délit ? Il a accueilli pour une nuit et il a donné à manger à un étranger. C'est fou, hein ? Et en Suisse, on est accusé de ça actuellement. Parce qu'il a aimé. Et que cet amour s'est donné et il a offert le logis, il a offert de la nourriture. Il est accusé d'un délit de solidarité. C'est littéralement ça. Mais voilà ce que ça veut dire. Même celui que je ne connais pas, de l'accueillir, pourquoi ? Parce qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. D'oser tendre cette main vers celui que je ne connais pas, vers celui qui m'est complètement étranger, vers celui qui n'a rien en commun avec moi, parce qu'il a de la valeur. Et l'auteur nous motive en nous disant, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Hey, incroyable ça, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Deux propositions, deux possibilités. Le mot « ange » ne veut pas forcément dire un être angélique, comme nous on les entend. Le terme « ange », c'est le même terme que « messager ». D'accord ? Et c'est possible qu'il ait sans le savoir, accueilli un frère en Christ qui porte le message de l'Évangile et qui transmet le message de l'Évangile. C'est possible que ce soit ça, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi simplement comme Abraham à Mamré, n'est-ce pas, qui a accueilli deux anges et même Dieu lui-même qui avait pris l'apparence humaine. Autrement dit, l'auteur nous motive ici, prenez soin des autres, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'au travers de cela, Dieu va vous faire un plus grand bien que ce que vous, vous allez faire. Vous allez recevoir une plus grande bénédiction que ce que vous, vous pensez donner. Mais ne serait-ce que de tendre la main, de donner, de pourvoir, d'être simplement des gestionnaires des biens que Dieu nous donne pour prendre soin de l'autre, prendre soin de celui qui n'a pas. Voilà la bénédiction aussi, une des bénédictions que Dieu veut nous offrir, et peut-être elle sera encore plus grande, accueillir Dieu lui-même, un ange. Mais par rapport à tout ce que l'auteur nous a dit, parce que le Fils lui-même a traversé les barrières, il est descendu du ciel, il a abandonné la gloire, il s'est fait homme et il a accepté la douleur et la mort parce qu'il a traversé toutes ces barrières, nous aussi. Traversons les barrières et aimons l'étranger sans rien attendre en retour. Célébrons Dieu, troisième point, en aimant l'opprimé. On va faire deux remarques sur ce verset. L'auteur nous invite ici à nous identifier à eux, verset 3, comme si vous étiez en prison avec eux, comme étant vous aussi dans un corps. Autrement dit, mettez-vous à leur place. Réfléchissez à leur situation et mettez-vous à leur place. Que vous, vous soyez à leur place, ou peut-être que ce soit votre enfant, votre parent, votre frère, votre sœur, réfléchissez comme si vous étiez à leur place. Et encore une fois, il nous renvoie à Jésus-Christ ici, qui s'est incarné, qui a pris notre place. Dieu nous a tellement aimé qu'il a pris notre place pour nous libérer, pour nous pardonner, pour nous réconcilier. Vous aussi prenez la place de celui qui est opprimé pour prendre soin et pour les secourir comme Christ nous a secourus. Je vous donne un exemple. Quand on entend les nouvelles de Porte Ouverte ou de Compassion, l'auteur nous invite ici, mettez-vous à leur place. Ils n'ont pas de quoi se nourrir parfois, pas de quoi travailler. Mettez-vous à leur place. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous? Quel serait votre besoin? Quand vous entendez des frères et des sœurs en Afrique, parce qu'on leur a tout volé à cause des persécutions, qui disent « on n'a pas de quoi nourrir nos enfants », mettez-vous à leur place et agissez. Encore une fois, vous n'êtes que des gestionnaires. Ça ne vous appartient pas. L'auteur aussi nous parle de ceux qui sont en prison, maltraités. Et il semble ici faire référence à ceux qui sont donc traités de manière injuste. Et non pas ceux qui reçoivent une juste peine à cause de ce qu'ils ont fait de mal. Et encore une fois, à cause du contexte, on pourrait peut-être plus penser à ces croyants qui sont en prison et maltraités en raison de leur foi en Jésus-Christ. Et l'auteur nous dit de nous souvenir d'eux, ne pas les oublier. Pourquoi? Quelle pourrait être la tentation? Voilà ce que Paul écrit à Timothée. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. En temps de persécution, en temps où les chrétiens sont mis en prison, quelle pourrait être la tentation des autres chrétiens autour? T'as dit? Pas prendre de risques, n'est-ce pas? Surtout pas les visiter, parce que si on les visite, ça veut dire qu'on est des frères, et donc que nous, on est chrétiens, et donc on risquerait d'être arrêtés. Et l'auteur nous dit, allez aussi en prison. Et Paul nous dit, n'aie donc pas honte. Il serait tentant de succomber à cette honte, de ne pas vouloir être identifié pour ne pas être mis à mal, de faire comme si on ne connaissait pas pour ne pas être exposé nous-mêmes. Mais l'auteur nous rappelle, Christ s'est incarné pour payer le prix fort, pour nous délivrer de l'oppression. Est-ce que nous aussi nous aisons nous exposer par amour pour Christ, premièrement, pour que l'Évangile soit transmis et pour soutenir nos frères dans le besoin, dans la difficulté? Oserons-nous, nous aussi, incarner l'amour qui se donne, qui offre, l'amour qui prend soin, qui s'identifie avec les plus faibles? Autrement dit, et c'est la question que je me pose pour moi, jusqu'où va ma foi? Jusqu'où va ma foi? Quelle est la réalité de ma reconnaissance à Dieu? Est-ce qu'elle va jusqu'à s'exposer, à oser dire, moi aussi je suis chrétien, moi aussi je pourrais souffrir? Alors, ayant dit cela, je ne dis pas que les autres prisonniers ne méritent pas d'être visités. Eux aussi restent des êtres humains créés à l'image de Dieu, qui ont aussi besoin du soin des croyants. Il me semble que ça va premièrement aux frères, mais d'autant plus aussi vers chacun. Aimons l'opprimé. Osons nous identifier avec l'opprimé. Célébrons Dieu en honorant le mariage. Et regardez ce que l'auteur dit au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, pas que des mariés, mais qu'il soit honoré de tous, des mariés, des célibataires et des veufs, des jeunes et des vieux. C'est l'histoire de tous. Honorons le mariage, c'est-à-dire estimons-le d'une grande valeur. Et comment l'estimer d'une grande valeur? Premièrement, si nous sommes mariés, en travaillant au lien avec notre conjoint. Et là, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement pour prendre soin de votre femme? Pour lui montrer à quel point vous l'aimez? Pour l'encourager, pour l'aider, pour la soutenir? Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous, mesdames, qu'est-ce que vous avez fait face à votre mari? Il n'y a pas que les messieurs, hein? Il n'y a pas que les messieurs qui doivent être romantiques. Qu'est-ce que vous avez fait pour encourager, pour prendre du temps à votre lien, pour construire votre relation? Et pas seulement la construire parce qu'on va bientôt se marier, mais aussi la construire et continuer à construire parce qu'on est vieux mariés. Ça continue. Il faut continuer à cela, veiller à cela. En tant que marié, mais aussi en tant que célibataire ou veuf, en n'interférant pas dans les mariages des autres, en ne s'immisçant pas. Léa a été spécialisée depuis qu'elle est petite à toujours venir se glisser entre moi et Claire. Où on est assis, ou même si dans notre lit, elle vient entre nous deux, toujours entre papa et maman. Mais est-ce que c'est ce que nous ferions? Est-ce que c'est ce que nous pourrions faire face à d'autres couples en cherchant à créer une relation particulière avec l'un des membres, quitte à un petit peu séparer en tant que messieurs? Est-ce que nous avons tendance à avoir une relation trop privilégiée avec une femme mariée? Ou en tant que femme, à avoir une relation trop proche avec un homme marié? N'interférons pas dans les mariages des autres. Veillons à nos relations. Protégeons les liens des autres. Protégeons les mariages des autres. Honorons le mariage. Tous, qui que nous soyons. Parce qu'il a une valeur énorme aux yeux de Dieu. Et l'auteur continue à en parler en nous parlant du lit. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal. Pourquoi il nous parle du lit ici? En fait, il n'y a pas écrit conjugal, du lit. En fait, clairement, il ne nous parle pas d'un objet. Il nous dit quoi en parlant du lit? Clairement, il nous parle de sexualité, de la relation sexuelle qui est dans le cadre du mariage. Et il nous dit justement de ne pas souiller. Pourquoi? Parce que Dieu jugera. Et c'est là que l'accent est mis dans notre verset ici. Dieu jugera. Parce que la relation sexuelle a une grande importance aux yeux de Dieu, parce qu'elle marque justement le lien du mariage que Dieu a voulu. Dieu jugera les débauchés et les adultères, les débauchés. Le terme vient du terme pornéa, qui a donné pornographie. De tout ce qui est relation sexuelle non approuvée de Dieu. De tout ce qui est relation sexuelle qui déborde du cadre que Dieu a donné, qui est ce cadre du mariage hétérosexuelle. Donc toute forme de sexualité autre que cela, qu'elle soit en dehors ou avant le mariage, souille le lit conjugal. Et Dieu dit, Dieu jugera. Ne jouons pas avec Dieu. Pourquoi? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Honorons tous le mariage. Et les adultères aussi. C'est-à-dire ceux qui ont une sexualité en dehors de leur mariage, avec quelqu'un d'autre qui soit leur conjoint. Il arrive que des jeunes viennent me voir pour me questionner sur la, pour me questionner justement sur la sexualité avant le mariage, en me disant qu'est-ce que dit la Bible ? Qu'est-ce que dit la Bible concrètement sur la sexualité avant le mariage ? D'autres sont plus pragmatiques en me disant on a programmé de se marier, donc on en profite déjà, c'est tout bon. Ou d'autres préfèrent un petit peu le flou, pas très de relation sexuelle, mais on va aller aux caresses. J'ai même entendu dans une prédication, on peut aller sous les vêtements. Non. Selon notre auteur, en fait, la sexualité ne s'aborde pas avec La sexualité ne s'aborde pas avec des considérations pratiques, économiques ou en fonction de nos pulsions. Encore une fois, d'après notre texte, la sexualité s'aborde en fonction du culte qu'on veut rendre à Dieu. Notre sexualité est une réponse cultuelle à Dieu. Elle pose la question suivante. Qui veux-tu honorer ? Est-ce que tu veux honorer Dieu ? Ou est-ce que tu veux t'honorer toi ? Est-ce que tu veux faire plaisir à Dieu ? Faire ce qui lui est agréable, verset 28, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, ou un culte qui nous soit agréable. Et l'auteur nous dit, dans le culte, ça touche même la sexualité, dans tous ses domaines, avant et pendant le mariage. À cause de cela, honorons le mariage. Et pourquoi une telle emphase ? L'auteur ne le souligne pas plus que cela ici, mais Paul, je vous renvoie à Éphésiens 5, le souligne énormément, où tout d'un coup, il parle du couple homme-femme pour glisser sur un autre couple, qui est Jésus-Christ et l'Église. Il nous rappelle la chose suivante, le couple a une mission. Ce n'est pas seulement de s'aimer l'un et l'autre, c'est vrai, mais le couple a la mission suivante. C'est de témoigner aux yeux du monde entier de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Et à cause de cela, honorons le mariage, prenons soin de nos couples, construisons nos couples, n'interférons pas dans les couples des autres, et notamment dans la question de la sexualité. Le couple a pour responsabilité de montrer la valeur d'un Dieu qui s'engage. D'un Dieu qui recherche, d'un Dieu qui recherche la pureté, d'un Dieu qui cherche la réconciliation. Alors dans nos couples, vivons cela. Et tous, en tant que célibataires, mariés ou veufs, honorons le mariage pour que les hommes de notre génération qui n'honorent pas le mariage, qui n'honorent pas la sexualité, puissent voir quelque chose de différent en nous, puissent nous questionner et que nous puissions répondre, c'est parce que nous avons un Dieu qui nous recherche. Un Dieu qui cherche la réconciliation, un Dieu qui s'engage. Et quand il s'engage pour toujours. Voilà pourquoi nous honorons le mariage. Célébrons Dieu finalement dans toutes nos relations. Versets 5 et 6. Pourquoi je parle ici de célébrer dans toutes nos relations, alors que l'auteur nous parle d'argent. Premièrement, parce que l'auteur ici nous parle de l'amour de l'argent. Il ne nous parle pas seulement de l'argent, mais il nous parle de l'amour. Et littéralement, c'est pas d'amour de l'argent. D'accord ? Pas d'amour de l'argent. Que nos vies ne soient pas conduites par l'amour de l'argent. Autrement dit, nos affections ne doivent pas aller vers le matériel, vers les moyens. Mais nos affections doivent aller vers Dieu premièrement et vers ce que Dieu a créé à son image deuxièmement. Voilà ce qui doit nous pousser dans la gestion de nos vies et dans la gestion de nos biens. Il n'y a pas longtemps, j'assistais à une discussion entre deux chrétiennes notamment, avec la question de la déclaration des impôts. Disant, voilà, il y a un bien que j'ai à l'étranger que je ne déclare pas sur ma feuille. Pourquoi ? Ou parfois, on a d'autres discussions. Oui, je fais tel travail au black. La question, c'est, mais pourquoi ? Pour économiser de l'argent, n'est-ce pas ? C'est juste, hein ? Mais ce qui veut dire que là, on s'est fait prendre dans l'amour de l'argent, les amis. C'est que l'argent domine sur notre honnêteté. L'argent domine sur notre droiture, sur notre caractère, sur notre conduite par l'esprit. Et nous sommes tous touchés par là. Je ne suis pas là pour taper sur quelqu'un en disant qu'il a travaillé au black ou pas. Je l'ai fait aussi, d'accord ? Si ça peut vous rassurer, j'en suis pas fier. Mais on a tous touché par cela. Notre société vit là-dedans. Regardez, prenons un tout petit peu de recul par rapport à ce qui se passe dans notre société. Le mois dernier, il y a eu une avalanche, n'est-ce pas ? Dans une grande station en Suisse. Je ne me souviens plus laquelle maintenant. Exactement, à Crans-Montana. Et qu'est-ce que nous rapporte la presse ? C'est que le nom de la victime, mais très rapidement on dit l'enfant de la victime va recevoir 140 000 francs. C'est très important de dire ça. Quand, à chaque fois qu'il y a une catastrophe qui se passe, les dégâts qu'il y a eu en France avec les gilets jaunes, ou qu'il y a une catastrophe naturelle, on nous dit le nombre de victimes, et très rapidement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà le coût matériel de toutes les dégradations. Il y en a pour des millions et des millions, par exemple, à Paris, etc. Si on regarde encore ce crash aérien qui est en 2015, il y a encore des procès pour savoir combien on va recevoir. Quand on va au tribunal et qu'on écoute les procès, même pour des questions terribles de viol ou de maltraitance, la grande question qui domine à la fin, c'est quel sera le montant des indemnités ? Et regardez pour vos assurances, etc. Au final, tout est mis à plat pour chiffrer. On évalue la douleur, le mal commis par un chiffre en argent. Et je reviens sur cette catastrophe aérienne de 2015. On a toute cette bataille qui a encore actuellement lieu. Pourquoi ? Parce qu'on parle de préjudice économique, de préjudice d'angoisse pour chiffrer la douleur subie par les victimes, de préjudice moral ou d'affection ou d'agrément où on cherche à chiffrer le plaisir qu'aurait partagé le proche avec le disparu. On cherche à tout chiffrer en argent. Parce que c'est ce qu'on sait maîtriser. C'est ce qu'on sait être palpable, c'est ce qu'on sait comprendre. Mais on a du mal à aller vers la victime et à prendre soin. Et regardez comment notre auteur parle de cela. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Mais avec tous ces exemples que je vous ai donnés, où est notre secours ? Où est notre appui ? Où est notre confiance face à l'avenir ? On le chiffre. On chiffre notre secours. On chiffre notre appui. Et à cause de cela, on remplit nos comptes en banque pour que l'argent ne nous délaisse pas. Ne nous abandonne pas. Ou alors, autre réaction, on le dépense frénétiquement. Le samedi, on ne sait pas quoi faire, donc on va au magasin. Pour trouver dans ce qui nous offre notre secours. Ou alors notre apaisement face à nos craintes ou notre valeur. Mais réfléchissons bien. Si l'argent est notre secours, alors le prochain devient le moyen. Et il est exploité. Et il est détruit. Et l'histoire en est remplie. On a l'esclavage historique, terrible, mais soyons honnêtes, nous trouvons l'esclavage encore moderne ici en Suisse, n'est-ce pas ? Lisez régulièrement ce qui se passe avec la traite, le trafic d'êtres humains dans la prostitution. Ou l'exploitation des sans-papiers. À Genève, dans les quartiers riches, des personnes ont leur pic, leur... leur passeport pour les obliger à devenir esclaves dans des familles extrêmement aisées et riches, actuellement en Suisse. Exploitation dans les entreprises, on met sous pression les ouvriers. Et l'année dernière, il y a une étude qui a sonné la sonnette d'alarme justement pour le monde paysan en Suisse. À cause de la pression, il y a énormément de suicides. Parce qu'ils n'ont plus de quoi vivre. Parce qu'on est toujours à la recherche du moindre coût, du moindre coût, du moindre coût. Pourquoi ? Parce que le but, c'est l'argent et plus la personne. Et soyons clairs, on est tous touchés par ça, n'est-ce pas ? Alors, soyons clairs, l'auteur n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre la joie, ni le fait de profiter de la vie, ni même contre le fait de gagner plus. Relisez l'Ecclésiaste, pas de problème. Relisez plein de passages, ces proverbes qui nous disent de mettre de côté, aussi en prévision des temps difficiles, etc. Okay, je ne suis pas contre un compte en banque. La grande question, c'est ne soyons pas conduits par l'argent. Donc, c'est ça, cette question que je veux retenir. Pour moi et pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui conduit notre vie? Qu'est-ce qui dirige notre vie? Et franchement, nous sommes dans une société où la grande valeur, c'est l'argent. Et donc, c'est difficile pour nous de s'en extraire, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on doit être conscient et prendre le temps d'y réfléchir volontairement. Qu'est-ce qui dirige ma vie? Qu'est-ce qui me donne du secours? Où est-ce que je place ma confiance face à l'avenir, face à aujourd'hui, etc. Christ nous a rachetés. Il nous a redonné notre valeur d'être humain. Allons-nous, pour le remercier, exploiter d'autres personnes? Ou allons-nous, pour le remercier, utiliser en bon gestionnaire les biens qu'il nous a donnés pour prendre soin de ces autres personnes? Célébrons Dieu en aimant notre prochain dans toutes nos relations, au lieu de célébrer l'argent sur le dos de notre prochain. Et dernièrement, rapidement, célébrons Dieu en servant notre prochain motivé par Jésus-Christ. L'auteur pose ici l'accent sur le fait de se souvenir. Souvenez-vous de vos responsables, souvenez-vous de vos conducteurs et imitez leur foi. Il nous invite ici à prendre du recul sur la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas prendre du recul sur notre propre vie. Alors, on nous invite à considérer ceux qui ont déjà vécu. Et quand il parle de ces conducteurs d'autrefois, très certainement, il s'agit de conducteurs qui sont déjà morts. Considérez leur vie. Regardez comment ils ont vécu. Et regardez l'issue de leur vie. Il les intègre à cette grande liste du chapitre 11 des héros de la foi. Certains ont eu des biens, d'autres ont été en prison et ont été... et sont morts. Donc il ne dit pas forcément est-ce qu'ils ont fini dans la richesse, dans la gloire ou autre. Mais est-ce que eux, dans tous ces domaines-là, ils ont pu persévérer? Est-ce que Dieu les a abandonnés ou pas? Et la réponse est non. Il n'y a pas la réponse, mais tacitement, elle vient. Non, ils ont pu persévérer, donc vous aussi, c'est possible de persévérer. C'est possible de célébrer Dieu en aimant notre frère, en aimant l'étranger, en aimant l'opprimé, en honorant le mariage dans toutes nos relations. C'est possible de vivre et de se contenter de cela. C'est possible de se réjouir de cela et d'avoir une vie qui soit juste et bonne. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Ils n'ont peut-être pas eu toute la richesse ou toute la gloire comme les autres, mais ils ont persévéré et ils ont eu cette joie d'appartenir à Dieu. Mais surtout cette grande motivation, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà le plus grand encouragement, la plus grande motivation. Sa grâce, son amour et son pardon demeurent comme avant, comme le jour où il vous a sauvé. Sa bonté, son soutien et son secours restent présents face à toutes nos tentations. Sa puissance demeure encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout ce que nous lisons encore continuellement dans les évangiles, tout ce que nous lisons sur lui, tout ce que nous le voyons faire, reste vrai actuellement. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. À cause de cela, l'auteur nous dit, nous pouvons nous engager, nous pouvons persévérer dans cette voie-là, dans cette vie de foi qui célèbre Dieu par reconnaissance à son grand amour, malgré le coup. Et autrement dit, l'auteur reste sur cette lignée depuis le début de son épître. Savourez Jésus-Christ. C'est difficile pour vous aujourd'hui. Vous ne savez pas comment louer Dieu pour sa bonté, comme nous a invité Myriam à le faire au début du culte. À nouveau, détournons nos regards de nous, détournons nos regards de nos situations et braquons nos regards sur Jésus-Christ. Savourez Jésus-Christ. Regardez qui il est. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rappelez de là où il vous a sorti. Rappelez qui il est encore aujourd'hui, ce bon berger qui prend soin de nous. Aujourd'hui, savourez Jésus-Christ. Il va vous équiper et vous motiver pour vivre encore aujourd'hui, pour vivre le culte auquel il nous appelle. Voilà le culte qui est agréable. Et c'est même pas fini, on verra encore la semaine prochaine la fin du chapitre 13, où ce culte, cette célébration continue. Et je m'arrête là pour aujourd'hui, mais juste en disant ceci, certainement, toi et moi, dans un de ces éléments-là, nous sommes repris, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un de ces domaines-là où on est en défaut, si ce n'est pas tous. Comment faire ? Parce qu'il s'agit ici des impératifs. Impératifs motivés, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ne jouons pas avec sa sainteté. Il est plein d'amour, oui, mais il a aussi encore des exigences pour nous. Parce que c'est ça qui est bon pour nous. Comment vivre cela ? Comment faire face à nos erreurs, face à un Dieu qui est aussi un feu dévorant ? Et j'aimerais nous rappeler ce que l'auteur défend depuis le début de son épître. Voilà notre secours face à notre Dieu qui est un feu dévorant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et c'est le message de toute la Bible. Quel est notre secours face au Dieu saint ? C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est plein de grâce. Parce que Dieu aime pardonner. Il en a donné le moyen. Non pas pour que nous vivions à l'encontre de sa grâce, mais approchons-nous du trône de la grâce pour vivre selon sa sainteté. Pour vivre selon sa grâce. Face à nos échecs, retournons à lui. Laissons-le nous pardonner, nous relever pour continuer à avancer selon ses exigences qui sont bonnes, justes et droites pour nous. Et à chaque fois que nous avons raté, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. C'est uniquement par reconnaissance à son amour, motivé par lui, rendu capable par lui, que nous pouvons vivre cette célébration. Je vous invite à prier.